Chapitre 5 À la recherche du câble. Quelles que fussent ses pensées, Chrysler avait conservé ce masque d'impassibilité qu'il ne quittait jamais. « Veuillez vous asseoir, miss, » dit-il tranquillement à la jeune fille. « Il est inutile que vous restiez debout. Vous êtes déjà assez fatiguée par les émotions que les circonstances m'ont obligé de vous infliger. Je vous en fais encore toutes mes excuses. » « Nécessité n'a pas de loi. » Margaret ne répondit ni ne bougea pas. Chrysler, sans plus s'occuper d'elle, atteignit un récepteur téléphonique qu'il décrocha de la cloison et à mi-voix demanda « Herr Morburg, de suite !» Deux secondes s'écoulèrent, puis le bandit reprit « Morburg !» Ranimez donc les deux d'en bas, plus rapidement possible. Ah, très bien, oui, ben faites pour le mieux. Mais toujours de la prudence, n'est-ce pas? Ils nous sont encore très utiles, alors il faut les conserver. Vous me téléphonerez immédiatement, entendu? Chrysler éloigna le récepteur de son oreille et pressa un bouton d'ivoire encastré dans l'appareil téléphonique. Erstein, dit-il brièvement. Ah, Otto! Toujours le dent, rien, bon, étonnant. T'as bien fait les calculs? T'en es sûr? Encore 9 matchs? Oh, c'est étrange. Pense au courant aussi. Nous l'avons trouvé à 3 000 dans le sud la dernière fois. Et fais refaire les calculs par Urbach. Oui, je sais, t'es toujours sûr de toi. Ça n'empêche pas que la dernière fois, nous avons mis 2 jours avant de te retrouver. Et maintenant, nous sommes pressés plus que jamais. Tu sais que je vais m'aboutir vite, Otto. Je viendrai te rejoindre tout à l'heure. » D'un geste sec, Chrysler raccrocha le récepteur. Puis se tournant vers le groupe, formé par Francis Drake et sa fille, qu'il avait du reste pas perdu de vue pendant qu'il téléphonait, il parla. « Bon, je suis pas un bourreau, Drake. » Avant d'en arriver aux moyens violents, je veux tenter de vous faire comprendre que non seulement vous, mais encore votre fortune entière est en mon pouvoir. Grâce aux papiers trouvés sur vous, je connais le code que vous employez pour correspondre avec vos hommes d'affaires. Je connais également les noms de ceux-ci. Je peux leur télégraphier quand je voudrais. Il faudrait d'abord aborder dans un port, murmura Drake. Il se pourrait bien que vous n'y arriviez pas. En tout cas, nous sommes loin de toute terre et... » Un ricanement de Chrysler coupa la parole du banquier. « Pas besoin d'aller dans un port, Drake. En ce moment, l'Atler se trouve, comme vous le dites, au milieu de l'océan. Mais il n'est qu'à quelques miles de l'endroit où passe un câble sous-marin. Bien que je sois sûr que vous m'aviez déjà compris, je ne veux pas qu'une équivoque puisse persister dans votre esprit. » L'Adler est muni de tous les appareils nécessaires à relever le câble. C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait lorsque je télégraphie à votre agent Gilson à Frisco. Demain, je relèverai le câble reliant Yokohama à Vancouver. Et je relierai un appareil transmetteur installé à bord. Et je télégraphierai à qui je voudrais, sans que personne ne s'en doute. Vous doutez certainement de ce que contiendront mes dépêches. Des ordres de vente et de vente. Oh, je connais à peu près les valeurs auxquelles vous vous intéressez. Je sais le nom de vos agents. Je possède votre code. Mes ordres ne rencontreront pas de suspicion. Ce qui serait peut-être arrivé si je m'étais présenté moi-même aux agences de câble, attendu que je n'y suis pas connu. J'ai tout prévu. Vous voilà averti. Si vous persistez à refuser mes conditions, à votre aise. C'est quand même la ruine pour vous. Et ensuite? Mais, bon, inutile d'en dire plus long, acceptez-vous! » Tandis que le bandit parlait, Francis Drake était resté impassible, pesant et mesurant chaque parole prononcée par Chrysler. Il comprenait que son implacable ennemi le tenait, qu'il pouvait parfaitement exécuter ses menaces. Chrysler avait tous les atouts dans son jeu. Le coup qui avait déjà si bien réussi avec Gilson se reproduirait. Et ne rien pouvoir faire. Un homme fort, ce Chrysler, vraiment. Mais lui, Drake ne céderait pas, car il devinait que l'argumentation de son ennemi devait contenir un point faible. Si Kressler eût été absolument sûr de son fait, il n'eût jamais tant insisté. C'était pas un homme à perdre son temps en bavardage ou en sentimentalité. Si donc il réitérait ainsi ses instances, c'était qu'il avait une raison, mais laquelle ? Impossible pour l'instant de la connaître, mais elle existait. « Non, » fit Drake, en récompense, réponse à la question de son ancien associé. Un fugitif éclair de haine passa dans les yeux du gris du bandit. Ce fut la seule manifestation de sa colère et de son dépit. « Vous paierez plus cher, voilà tout, Drake, » déclara-t-il de sa voix égale. Je vous aurais cru plus raisonnable, mais lorsque la passion vous aveugle, cessons de raisonner. En ce moment, votre fureur domine tout, tant pis. Vous subirez les inévitables conséquences de votre obstination, et Miss Drake aussi, s'il le faut. J'ai un but à atteindre et j'atteindrai. J'emploierai tous les moyens pour y parvenir. Un dernier mot, Drake. Je vais avoir devant vous une explication avec le solliciteur Jarlis et avec le chimiste Elwell. Je vous montrerai par eux ce que je peux faire sur vous et sur votre fille. N'insiste pas. C'est toujours un refus. Cette fois, Drake eut une légère hésitation. La dernière menace de Kressler avait atteint son but. Francis Drake aimait sa fille plus que lui-même. Il eut vraiment tout donné pour lui éviter la moindre souffrance, et de la savoir au pouvoir de Kressler, il éprouvait une atroce angoisse. Le bandit, toujours calme, attendit. Ce fut Margaret qui répondit. « Vous ne pouvez rien contre moi, monsieur, » dit-elle d'une voix ferme. « Il me reste encore assez de courage pour me tuer, et mon père ne vous cédera jamais, s'il m'aime. Cherchez donc autre chose. » Drake resta muet, il était bouleversé. « Vous parlez fort bien, miss, » fit tranquillement Kressler. « Vous oubliez seulement deux choses. La première, c'est que mon intérêt vous commande, que vous gardez vivante. Et la seconde, c'est que j'en ai les moyens. Je vais vous faire ligoter afin que vous ne puissiez pas attenter à votre vie. Quant à vouloir, par exemple, mourir de faim, impossible. Vous ferez nourrir par force, comme une suffragette. Si vous devez mourir, ce sera au moment que j'aurai choisi et de la façon qu'il me plaira. Ces décisions, d'ailleurs, dépendent entièrement de votre père. Pour moi, je ne demande qu'à vous être agréable dans la mesure du possible. » Et Kressler s'inclina. Margaret Drake se mordit les lèvres. Elle était impuissante. Alors à quoi bon donner au bandit l'occasion d'un sarcasme de plus ? La jeune fille se tut. Francis Drake regarda sa fille, et une larme de désespoir jaillit à la commissure de son œil. « Vous acceptez, Drake, mes conditions ?» demanda le bandit.
« Non, non !»
s'écria Margaret, devançant la réponse de son père qu'elle craignait de voir faillir. « Mais ce n'est pas à vous, j'ai l'honneur de m'adresser, miss !» remarqua Kressler avec une politesse affectée. « Je suppose que vous m'avez entendu, Drake. » Le prisonnier ne répondit pas tout de suite. Son regard lourd d'angoisse rencontra celui de sa fille, et il articula péniblement « Bon, je refuse. » Kressler s'attendait à cette réponse. « À votre aise, dit-il, mais je vous avoue qu'à votre place, j'aurais accepté, ne fût-ce que par amour pour ma fille. » Sans insister, le bandit sonna. Deux matelots parurent. « Des menottes au poignet, une corde aux chevilles, et reconduisez Miss dans sa cabine. Je viendrai tout à l'heure voir comment elle est installée. Mais la quittez pas des yeux. Elle est capable d'essayer de se briser la tête contre une cloison ou un meuble. Allez !» Les deux brutes qui venaient d'entrer avaient sur eux un rouleau de cordelettes. Margaret, sans opposer une résistance impossible, se laissa faire. En un tour de main, elle fut ligotée étroitement. « Adieu, mon père » dit-elle, tandis que les deux brutes la soulevaient et l'emportaient hors de la cabine. Voilà, Drake, conclut Kessler, dès qu'il fut seul avec sa victime. Votre fille, oh, je ne suis pas expliqué davantage devant elle afin de ne pas l'effrayer inutilement. Votre fille sera torturée sous vos yeux si vous persistez dans votre sot refus. Torturée, vous comprenez? Suspendue par un bras pendant 12 heures et suspendue par l'autre durant les 12 heures suivantes. Peut-être que lorsqu'elle criera de souffrance, vous aurez d'autres idées que présentement. Naïf que vous êtes. Savoir qu'on est inévitablement obligé à faire quelque chose et préférer attendre et faire souffrir les siens. Vous accepterez mes conditions, Drake. Mais seulement après que votre fille aura éprouvé les tortures de l'enfer. C'est cela que vous voulez, hein? C'est... Kessler sursauta comme piqué par un aiguillon. Drake, se dressant de sa couche, venait de lui cracher au visage. Kessler eut un simple, un imperceptible froncement de sourcils. Le bandit était maître de ses sensations. Sans dire un mot, il essuya sa face avec son mouchoir, eut un ricanement de dédain. « Vous allez m'obliger à vous faire fouetter comme un chien la prochaine fois. Il y a des fouets ici, et je n'hésiterai pas à m'en servir. Drake. J'ai d'ailleurs assez perdu mon temps avec vous aujourd'hui. Nous prendrons cela. » Se disant, Kessler alla prendre une serviette dans le cabinet de toilette attenant à sa cabine et en bâillonna son prisonnier. Il vérifia ensuite la solidité des liens maintenant Drake et, rassuré, sortit de la cabine et monta sur la passerelle. 3 hommes s'y trouvaient, l'homme de bar et 2 officiers. Un de ces derniers observait le soleil à l'aide d'un sextant, tandis que son collègue comptait à haute voix les secondes marquées par un chronomètre qu'il tenait de ses 2 mains. Kessler attendit qu'ils eussent terminé et grommela en s'adressant au plus grand des 2, celui qui tenait le sextant. « Une nouvelle observation. T'es donc pas sûr des précédentes, Otto ?»« Si, j'en suis sûr, mais mieux vaut 2 certitudes qu'une. Le cap doit être à mile d'ici, d'après les cartes. Alors, avant de commencer les dragages, je m'assure que je ne suis pas trompé. Les bouées sont prêtes. Dans 10 minutes, nous commencerons, si mon observation confirme les précédentes. » Kessler s'inclina sans mot dire et marcha vers un petit bureau abrité par un écran de toile et sur lequel des cartes marines étaient étalées. Il les regarda longuement, tandis que l'homme au sextant pénétrait dans la chambre de veille pour y faire ses calculs. L'officier ressortit 20 minutes plus tard. « C'est correct, Herr Kessler, déclara-t-il. Nous devons être sur le câble. Je vais faire placer les bouées, de façon que demain à l'aube nous puissions commencer. » « Oui, dépêchons-nous, grommela le bandit. Drake veut rien savoir. Je prévois que l'affaire sera plus difficile que je croyais. Mais cette petite pécore qui l'excite encore. Mais nous y arriverons lorsque Drake sera véritablement ruiné. Il sera bien obligé de régulariser tout pour ne pas mourir de faim. Allez, stop et fais placer les bouées. Nous avons à peine encore 2 heures de jour, Otto. » Le dit Otto fit entendre un grognement d'acquiescement et poussa la manette du transmetteur d'or dans la machine jusqu'à ce que l'aiguille du cadran indiquât le mot « stop ». Presque aussitôt, les machines s'arrêtèrent. Le relevage d'un câble sous-marin est une opération plus compliquée qu'on ne le croit généralement. D'abord, la position du câble lui-même est loin d'être connue exactement. Les sinuosités du fond de la mer, les courants, lui font décrire des méandres irréguliers. Aussi ne peut-on déterminer son emplacement que d'une manière approximative. Cette opération s'accomplit en mouillant 3 bouées, généralement rouges et retenues au fond de la mer par des câbles attachés à des grappins. Ces bouées sont placées de façon à former entre elles un triangle dans lequel le câble est supposé passer. Ses repères placés, le navire câblié drague le fond de la mer à l'aide d'un grappin de forme spéciale jusqu'à ce qu'il ait accroché la câble qui est ensuite remontée à l'aide d'un puissant treuil. Généralement, ce travail a pour but de réparer un câble avarié ou d'en repêcher les deux extrémités pour les s'épisser ensemble lorsque le câble est brisé. Mais tel n'était pas le but des gens de l'Adler. Ainsi qu'il l'avait annoncé à Drake, ainsi qu'il l'avait déjà fait une fois, Chrysler voulait simplement repêcher le câble afin de s'en servir pour passer des dépêches sans contrôle. Pour cela, une fois le câble remonté à la surface, il lui suffisait de le couper, d'en fixer l'extrémité à un appareil télégraphique. Ensuite, il le réparerait et l'immergerait à nouveau, sans laisser de traces. Les trois bouées furent mouillées dans l'heure qui suivit, et le lendemain matin, dès le lever du soleil, l'Adler laissa tomber son grappin au fond de la mer et commença ses allées et venues entre les bouées en traînant le grappin. Mais la matinée entière se passa sans résultat. Évidemment, le câble n'était pas là.